RCN, écoutez le monde qui bouge.
Bonjour à nos auditrices et auditeurs de RCN, bonjour Yossi. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Azur Echo, une émission qui a pour ambition de vous décrypter et de vous simplifier l'économie de notre région. Le sujet d'aujourd'hui est passionnant, il touche notre quotidien et fait même partie intégrante de notre vie, c'est le numérique. Nous sommes toutes et tous connectés via nos smartphones, tablettes, ordinateurs et autres objets. Les applications et sites se multiplient pour nous faciliter notre quotidien. Mais cette simplicité apparente cache un monde complexe rempli d'algorithmes, de calculs et de recherches. Comment fonctionne ce monde? Quels sont ses codes et vers quoi va-t-on? Telles sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec un invité exceptionnel qui est au cœur du sujet et qui en maîtrise tous les aspects. Bonjour Cédric Messina.
Bonjour Ilan.
CEO de MyCoach. Je vais vous présenter rapidement pour que nos auditeurs comprennent un petit peu votre parcours. Donc, vous avez fait des études en IUP Management du sport.
Oui, à l'époque où le sport, c'était pas forcément une vocation professionnelle.
Voilà.
C'était le premier, vous imaginez, il y a 20 ans, c'était la première école.
La première école sur le sport.
C'est tout dire sur l'économie du sport.
Ouais.
Je vous ai coupé, désolé.
Ah, non, aucun plaisir. Non, c'est une émission justement où on échange beaucoup, donc on y va, on échange. À partir de là, vous avez donc créé ActuFoot, qui était un premier site réellement sur le football.
Journal même.
Premier journal et site après décliné sur le football. De là, vous avez eu toute une réflexion finalement sur l'évolution du sport avec le numérique et vous avez créé MyCoach, qui est une vraie réussite, une vraie pépite. Vous allez nous en parler. Et après, vous avez donc développé tout l'écosystème autour.
Ouais, tout un écosystème. En fait, je suis passé d'un journal, de l'édition en fait, post-fac, ouais. Et après j'ai monté une agence de com qui s'appelle Comeback, une boîte de prod, vidéo, et c'est l'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je crois que l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est une réponse en fait à la crise économique et à la création de valeur, et de suite après un premier parcours dans le marketing, la communication, un premier pas dans le numérique avec la création de MyCoach.
Et une vraie réussite, hein, MyCoach, hein, si vous
voulez
dire.
Sur
MyCoach.
Bon, on va en parler après, non?
On en parle après.
Et après, investir dans pas mal de startups qui donnent une vision un peu prononcée sur le digital, et c'est ce qu'on va aborder, je pense.
Tout à fait.
Dans la foulée.
Tout à fait. Donc, après, finalement, la création de vos entreprises, là, vous vous êtes lancé, dans tout ce qui est chambre de commerce. Alors vous avez commencé d'abord par la French Tech.
C'est en parallèle en fait. C'est que quand vous débutez, moi je viens d'un milieu assez modeste. J'avais pas de tuteur en fait en termes dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc ce qu'on appelle vulgairement en fait de réseau ou d'écosystème qui peut vous porter, vous aider. J'étais plutôt dans une famille qui où il n'y avait pas forcément, je le dis souvent, mais tout ce qui est que ce soit chambre de commerce, réseaux divers et variés, politique, etc. Il n'y a pas d'acquaintance particulière.
C'était pas les discours à table.
Ouais, sauf que vous vous rendez vite compte, c'est mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, assez jeune, dès 24 ans, j'avais ma première boîte. Ben, si vous n'avez pas un réseau, c'est compliqué de passer un cap. Et malheureusement. Alors, ce qui peut déboucher sur du clientélisme, malheureusement, mais si vous n'avez pas ce qui vous permet de grandir, de vous accompagner, tant en termes de financement que d'impact sociétal, que d'impact politique, c'est compliqué. Donc, je me suis tout de suite aperçu qu'il fallait rentrer dans pas mal de réseaux.
Et avec une vraie réussite, puisque vous avez été vice-président de la French Tech. Vous avez même créé la French Tech.
Voilà, créé une start-up en 2015.
Oui.
C'était le premier regroupement de start-up à Nice.
Qui aujourd'hui est
devenu la French Tech après.
Une pépinière de.
Ouais, c'est l'association en fait. Il y a plus de 150 membres. Donc c'est création de Nice start-up, après création de la French Tech. Et on est devenu capital parmi les 12 capitales.
Oui.
Et après c'est compliqué parce qu'il faut structurer, il faut le positionner sur un environnement, positionner le digital comme un secteur qui compte. Souvent, il y a beaucoup de confusion autour du numérique. Il faut le voir comme une véritable économie, l'économie de demain.
Oui.
On en parlera aussi tout à l'heure.
On va être dans les sujets, dans les questions.
Donc voilà, French Tech. Après, c'est aussi la passation. Moi, beaucoup.
Vous avez passé la main assez rapidement. Finalement, vous avez monté le projet French Tech. Et puis après, vous êtes parti vers d'autres horizons. Vous avez été élu, vous êtes toujours d'ailleurs élu de la CCI NCA Nice Côte d'Azur,
ouais, et vous en êtes vice-président.
Voilà, et région aussi également. Hein, au niveau de, on a eu la chance pour la première émission d'avoir les deux présidents, donc ouais, vos deux présidents actuels, et aussi vice-président du Comex 40 au MEDEF. Donc vous êtes au national, ça aussi c'est une vraie fierté puisque vous portez finalement les couleurs de la région au national au niveau du MEDEF, et ça c'est une vraie réussite également.
Ouais, il faut, ça fait partie en fait de l'accompagnement. Je crois que l'engagement entrepreneurial est hyper important. Je crois énormément au fait que la création de valeur d'entreprise va être important. Là, on évoque tous la crise énergétique, la crise financière, etc. Et un des leviers, en fait, un des vigies, en fait, à cette crise-là, ça va être la création de valeurs et d'entreprises. Donc, autant militer, autant porter, en fait, ces valeurs-là. Et sans se perdre non plus, hein. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps, c'est hyper chronophage. On a toujours l'impression de vous entendre. Il faut laisser la place aux autres. Donc, c'est une culture, c'est le bon équilibre.
Ouais.
Donc, à chaque fois, ce qu'il faut faire, ce que je m'emploie à faire, en tout cas, c'est de pas occuper l'espace pendant X temps. Je crois qu'on va incarner une génération où on sera plus président d'un club ou président d'une association pendant 30 ans ou dans le même position entrepreneuriale, le même statut social. Mm-hmm. Je crois que
on est de passage.
Ouais, je pense parce qu'il faut garder la lucidité, il faut avoir un autre discours, il faut avoir une autre vision. J'ai eu la chance d'être dans une d'ailleurs au Comex 40 d'une masterclass avec le Sébastien Bazin qui est le président d'Accor qui disait: écoutez, après 10 ans, on est plus lucide. Il faut laisser sa place, que ça soit dans un mandat social ou dans son entreprise. Et j'essaie de l'appliquer aussi. Et déjà 10 ans, c'est beaucoup. Sur des mandats courts, hyper punchy, on essaie de bouger les lignes, d'avancer, de s'attaquer aux acquis et d'essayer de faire passer les bons messages.
Bah écoutez, bravo. Bravo, parce que quel parcours, et également l'UPE aussi, parce que vous êtes aussi très actif au niveau de l'UPE avec Pierre Hippolito, hein,
qui on partage cette même volonté
de bouger les lignes.
Ouais, bouger les lignes ou changer les choses, c'est des mots qu'on emploie assez souvent. Et maintenant, c'est y mettre du concret derrière. Qu'est-ce que ça veut dire bouger les lignes? Qu'est-ce que cela implique comme sacrifice? Je crois qu'il y a une faillite du leadership dans la plupart des institutions où il faut prendre ses responsabilités. On n'aura pas le financement va manquer forcément, mais c'est pas parce que on se le dit que souvent que c'est négatif, c'est qu'il faut voir différemment. Il faut se réinventer dans l'entreprise, il faut réinventer les modèles économiques, et il faut que les institutions servent à ça, à permettre à la plupart d'avoir accès au financement, mais accès aussi au réseau. Voilà, c'est tout un programme qui mériterait d'en parler, mais ça passe par l'implication de tout un chacun au quotidien, d'une remise en cause permanente.
Ben, écoutez, en tout cas, félicitations et bravo. C'est un exemple aussi pour les jeunes, finalement, de se dire que voilà, on part d'un monde qui finalement est pas vraiment le sien. On s'accroche à ses idées et à ses rêves.
Ouais, il faut être déterminé.
Il faut être déterminé.
C'est souvent la qualité principale, c'est pas le talent ou pas. Ce que je dis souvent, c'est être déterminé. Parce que il y a souvent plusieurs leviers. Comment on accède en fait à son marché, à son entreprise, à des postes à responsabilité, quels qu'ils soient. Et après, on voit il y a l'impact du niveau local. Et après, il y a le niveau national. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à performer au niveau local, vous rendez vite compte qu'on n'existe pas au niveau national. C'est une des raisons pour laquelle je me suis engagé au national. Donc effectivement, je passe 3 jours par semaine à Paris. On a des bureaux à Paris avec mes coachs. Mais vous rendez vite compte qu'on n'existe pas sur la carte française. C'est aussi un combat permanent, pas simplement pour nous, mais pour la région, et de se dire qu'il se passe des choses sur le département et qu'on peut exister aussi au niveau national.
Eh ben écoutez, encore une fois, bravo. Pour rentrer dans le vif du sujet, on l'aura compris, vous êtes vraiment un acteur majeur du numérique sur la région. Vous connaissez quand même parfaitement le sujet. Vous l'avez maîtrisé de A à Z puisque vous avez été au tout début finalement de tout ce qui était start-up, création de sites, applis, etc. Donc aujourd'hui, on est en plein dedans hein, finalement. On est dans ce modèle complètement disruptif et où on fait bouger les lignes. Vous avez donc été à la base de ça. Vous êtes en plein cœur de ça. Donc aujourd'hui, ma première question, c'est quoi aujourd'hui une start-up ? Parce que ça a plus la même notion qu'il y a 10 ans finalement.
En fait, je combats là-dessus sur dire la notion de start-up en fait a été assimilée des jeunes en skateboard qui arrivent totalement comme une autre manière de voir les choses, une autre manière qui a été caractérisée dans pas mal de films. Donc on prend l'exemple de Social Network avec Facebook, ouais, où on voit sur les plateformes notamment de Netflix nombre de sagas qui est souvent assimilé à un engagement de jeunes dirigeants avec de l'authenticité de manière innocente qui disrupte tout un marché et derrière qui gagne beaucoup d'argent. Mmh. Bon, derrière tout ça, ça donnait une fausse impression de l'impact que devaient avoir les entreprises numériques. Je donne souvent cet exemple de Amazon qui aujourd'hui trust et on va encore le voir sur Noël la plupart des commandes et des marchés qui est, c'est un problème en amont qui s'est joué dans les années 2000. C'est-à-dire que quand on compare les trois Suisses et Amazon, vous imaginez, avaient le même chiffre d'affaires, le même nombre d'employés et 15 ou 20 ans après les trois Suisses ont fait faillite. Et Amazon est devenu le géant qu'on connaît, qui fait de la musique, du streaming vidéo, du cloud, etc., etc.
Du livre audio.
C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux cette économie. De toutes les aventures ou de start-up qui germent aujourd'hui seront les modèles économiques de demain. Pourquoi il faut militer sur le numérique? C'est que derrière, c'est une économie, des pans entiers d'économie qui vont s'effondrer. Si on fait un peu de pédagogie, vous vous rendiez bien compte qu'il y a 10 ans, bon, le marché des taxis, par exemple, était 100% français avec des licences. C'était tout un modèle. Mmh. Et l'arrivée de Uber a totalement disrupté tout ça avec une fuite des capitaux vers l'étranger puisque Uber est américain. Donc, si vous prenez tout ça, ça vous fait prendre conscience de l'enjeu, ce qu'on appelle vulgairement souveraineté numérique et des enjeux stratégiques.
Ça, je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous, la souveraineté stratégique au niveau du numérique. C'est que effectivement, qu'en France, on crée des pépites et on arrive à les garder aussi. C'est un vrai sujet.
C'est pas simplement un enjeu de communication, c'est un enjeu économique. C'est l'emploi de demain. C'est se rendre compte que dans les années 60-70, 40% des 100 entreprises valorisées au monde étaient françaises. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le Nasdaq, où il y a toutes les nouvelles, c'est zéro. C'est se rendre compte, en fait, que dans 10 ou 20 ans, on sera plus souverain dans pas mal de pans d'activité. On l'a vu pendant le Covid, avec les masques, avec tout ça. Oui. Et on s'est aperçu pendant le Covid de notre totale dépendance. Donc, on faisait une visio avec Zoom, on allait sur Netflix, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait toute une faille dans notre économie, on était plus souverain et plus maître. C'est un enjeu de taille qui est pas simplement français mais plutôt européen et qui a le mérite qui est un combat non pas sur celui des startups mais celui de l'économie de demain.
Alors ça effectivement on avait abordé le sujet un peu de l'Europe, c'est-à-dire quel est l'apport et un peu le côté un peu négatif de l'Europe, mais on voit qu'effectivement là-dessus c'est un enjeu. La France ne peut pas le porter toute seule. Il faut que ce soit vraiment une volonté européenne de défense via des géants comme les États-Unis, comme la Chine qui émerge. Effectivement, l'Europe peut être un bouclier et un vecteur là-dessus.
Vous avez un enjeu financier. Mmh. Tout à l'heure, je parlais d'Amazon et des trois Suisses. Amazon, dans les années 2000, a levé plusieurs fois quelques milliards. Nous, on a été reçus par la ministre des Sports sur MyCoach. On a reçu la médaille en chocolat du ministère qui est celle du haut patronage dans le monde du sport. Et on nous a appelé la pépite française, etc. Ce que je leur ai expliqué, c'est que nous, on avait levé 10 millions d'euros pendant que nos concurrents américains, si on se place sur ce schéma-là, étaient à 100 millions. Ouais. Et que derrière, c'est un accompagnement plus puissant. C'est-à-dire que vous pouvez être champion de France, si je fais une métaphore. Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, forcément, il faut augmenter son budget de manière substantielle. Et c'est là où c'est plus problématique derrière. C'est d'arriver à conforter son modèle sur son marché domestique, en l'occurrence la France, et de passer un cap à l'international.
D'ailleurs, juste pour faire juste le petit point sur MyCoach, aujourd'hui, pour expliquer un peu MyCoach, c'est la société du sport en France.
Non, parce que sur le numérique, en tout cas. Oui. On est positionné en tant que tel. MyCoach, on a 4 pans d'activité différents. Le premier qui est le pan historique qui s'appelle MyCoach Sport. On s'est associé avec une autre startup, Joinly, et la BPCE avec la boîte à Paris. Là, c'est la digitalisation de la pratique. Donc, grosso modo, vulgairement, c'est des applications pour le licencié oui. qui peut se connecter à travers sa fédé. Donc, on occupe une place de choix, puisqu'on a quasiment 50% des fédés.
Oui.
Maintenant, on se heurte aussi à la problématique de la digitalisation, du financement, etc. Mais en l'occurrence, on est en direct avec les ministères, etc., pour se dire de quelle manière une boîte française peut être la plateforme de digitalisation de la pratique sportive.
Ouais, vous avez lancé d'ailleurs MyCoach TV.
Oui, MyCoach Sport.
J'avance un peu, oui.
Deuxième société indépendante avec une autre CEO, c'est MyCoach Pro. Là, en l'occurrence, on est sur un marché mondial, celui du logiciel, plutôt tourné vers la haute performance. Mmh. Donc là, c'est plutôt les équipes nationales, les équipes pro. Donc, on a 80% du marché. Quasiment, on a un vrai leadership en France et on commence à avoir en Europe. Donc, c'est le PSG, c'est l'équipe de France, etc., etc. Donc, ça, c'est du marché du logiciel simple. Vous suivez Mbappé depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il soit plus grand avec ses performances au quotidien. Troisième plateforme, MyCoach TV, où là, c'est une plateforme dédiée totalement à l'e-learning. On s'est rendu compte que dans toutes les applications qu'on avait, ce qui marchait très fort, c'était le partage de contenu. Donc, des entraîneurs qui échangent sur d'autres entraînements avec d'autres entraîneurs. Donc, c'est pour vous donner une indication, c'est plus de 1 million d'exercices créés par des coachs amateurs de foot.
C'est énorme.
Et donc, on a regardé un peu ce qui se passait. Il y a un géant qui s'appelle Masterclass aux États-Unis. Vous avez Steven Spielberg qui vous apprend avec des tutos à faire la réalisation. Donc, on s'est dit, à horizon 2024, il faut qu'on se positionne sur ce marché-là. Et on a signé avec une cinquantaine d'athlètes, Nicolas Batum, Hugo Loris, etc., etc., qui vous donnent des cours en ligne sur MyCoach TV.
Ça c'est génial. On a donc parlé de la start-up d'aujourd'hui. Aujourd'hui finalement, c'est quoi le bon modèle de réussite? Comment on fait finalement pour créer, pour avoir les bons réflexes, avoir le bon modèle en tête? Un jeune entrepreneur voilà qui vient vous voir, qui vous tape à la porte et vous dit Cédric, aujourd'hui voilà, je veux me lancer. Conseils?
Le premier conseil, c'est vous savez maintenant les fonds d'investissement et personne vous le dit de la manière dont je vais le dire, commence par auditer ou par écouter le dirigeant, ce qu'on appelle vulgairement homme-clé. Mmh. C'est-à-dire, quelle va être sa conviction, quelle va être sa détermination. Contrairement à ce qu'on pense, la qualité principale de ceux qui réussissent ou qui performent sont la détermination. Tout le long de son parcours de création, il va y avoir une problématique qui est celle de la concurrence, qui est celle de la recherche du financement, qui est celle du porteur de projet, où il faut aller chercher. Et ça, souvent, on peut avoir une très bonne idée, mais si on n'est pas à la hauteur de l'engagement que être dirigeant demande, ça sera voué à l'échec. Donc la première, souvent, on porte ou pas la gagne en soi. La deuxième, c'est d'avoir une bonne vision de son marché. C'est-à-dire que ce qu'on appelle mapping, c'est de regarder. Demain, je vous dis, je veux lancer une plateforme et vendre des baskets. J'ai 1000 euros. On va lui dire, bon, écoute, tu regardes, il y a des géants, tu n'arriveras pas à faire du stock, etc. Ne te lance pas. Donc, c'est assez simple. Donc, bien connaître son marché, souvent, il suffit de regarder autour de soi et on a déjà une réponse à ce qu'on va pouvoir être. C'est la notion d'idée, de marché, de produit. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est que souvent, on oublie tout ça.
Oui, parce que la base du marché, ça reste l'offre, la demande. Donc, si j'ai déjà une offre énorme, forcément, la demande va être beaucoup plus diluée. Alors que si j'ai une offre très restreinte, ben là, je vais avoir beaucoup de demandes ou je vais essayer de créer cette demande. Donc, là, il y a un vrai intérêt. Et vous savez faire, créer la demande aussi, puisque vous avez tout le côté, effectivement, aujourd'hui, où vous avez développé à côté, donc kick-off, parlez-nous aussi de ça, c'est très intéressant tout ce que vous faites en production, création de sites, etc.
Donc, premier parcours, donc une agence de com qui s'appelle Comeback, qui est autonome. Après, c'est bien se connaître. Moi, si je me connais bien, je pense être leader, moins plus leader que manager. Je crois que c'est Peter Drucker qui disait « Le leader fait des choses justes et le manager fait des choses bien ». Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on crée un marché, je trouve le financement, on trouve le modèle économique derrière, je mets un bon manager qui assoit la suite. Ce qui a donné naissance à Comeback, qui est une des grosses agences de com, à Kickoff Prod, qui est une boîte de prod qui bosse avec Amazon, etc., etc. Et dans le cadre du numérique, effectivement, on est parti d'idées et on a créé une start-up qui s'appelle Okaya, par exemple.
Ah oui.
Avec
d'ailleurs,
le groupe Robertet.
Alors, on n'a pas de vidéo pour le coup, mais avec le groupe Robertet, donc vous avez créé Okaya.
Bah ça, c'est une idée. Ouais. On parle puisque c'est la Coupe du Monde.
Ouais. On a d'ailleurs un très beau parfum qui est le parfum des Bleus. Yossi, tu vois, au bleu, c'est le parfum de l'équipe de France officielle. Donc ça aussi, une très belle idée. Comment c'est né?
Ben, c'est né, en fait, on sympathise avec les dirigeants du groupe Robertet. Mmh. On parle de modèle économique, etc., comme une discussion classique, ou pas, mais... Et derrière, j'avais rendez-vous dans la Fédé de foot, c'était poste juste avant le championnat d'Europe, et je leur pose la question, je dis, vous avez une licence autour de l'équipe de France pour faire le parfum officiel des Bleus? Ils me disent non, et en deux temps, trois mouvements, on a lancé au bleu, ça a été un carton commercial, de là, du parfum, en fait... On a créé une plateforme qui s'appelle Okaya.
Okaya, ouais.
Et de là, on est allé prendre des licences et on a décidé avec plusieurs associés de lancer la première plateforme de parfums sous licence. Donc on a notamment
NBA,
les DC Comics, la NBA, et on s'éclate et on a dépassé les plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc c'est devenu une véritable plateforme où là il y a d'autres problématiques, trouver le DG, transmettre, etc.
Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, vous êtes finalement une sorte d'incubateur d'idées.
Visible, on trouve les financements et après, derrière, il faut prendre le relais.
Mais finalement, c'est un bon modèle. C'est-à-dire, effectivement, on en revient
pas,
au début. C'est...
Ou pas, parce qu'on a tendance souvent, on caractérise, il n'y a pas de bon modèle.
Oui.
Est-ce que je suis moi-même le bon modèle de ce que je fais? Parce que ça, c'est...
A priori, ça va.
Ouais, non, oui, mais... Inversement, vous avez vos partenaires. Alors maintenant moins, parce qu'il y a des réussites visibles, financières, etc. Mais au départ, quand vous avez tendance à faire peur, vous avez tendance à ce que les gens comprennent pas ce que vous faites.
Oui.
Moi, plus d'une fois, on m'a dit, mais t'as une agence de com, tu fous de c'est toi, My Coach, qu'est-ce que c'est My Coach, mais qu'est-ce que tu fais à la chambre de commerce, mais qu'est-ce que tu fais là?
Ouais.
Tu vois?
Les gens se mettent. Mais ça fait partie finalement un peu de, on en revient, ces nouvelles générations qui disruptent. C'est de la disruption. C'est-à-dire, je change un peu le modèle, je change les cartes, quoi.
On a une culture française qui doit vous mettre dans des cases. Mmh. C'est-à-dire que si t'es assureur, bah, t'es assureur. Et on ne comprendrait pas demain que tu fasses autre chose. Journaliste notamment. Je veux dire, si on n'arrive pas à vous mettre dans une case, cette culture française est disruptée par la culture anglo-saxonne. Moi, aujourd'hui, j'ai plus un profil, je suis quasiment investisseur ou créateur d'entreprise.
Alors, je rebondis sur ça. Le numérique, finalement, en France, et surtout dans la région, par rapport au côté versus monde, est-ce qu'aujourd'hui, on a des belles réussites, des belles choses, des belles pépites qui arrivent est-ce qu'on a un beau réseau d'idées?
Vous avez, par exemple... des jeunes que Ni Startup et la French Egg Company, qui est LiveMed, qui a trouvé en plus des investisseurs, qui viennent lever 5 millions, qui est en train de créer la plateforme en fait de livraison de médicaments à domicile. Mm-hmm. Vous avez eu des sur Sofia notamment en R&D, mais c'est vrai que quand on pense, on a tout réuni aujourd'hui sur notre territoire pour en faire. On a souvent parlé de la Silicon Valley du Sud. Donc vous avez une géographie qui est hyper smart, vous avez une université qui est en train de se mettre en place. Maintenant, je crois énormément, quand vous pensez Silicon Valley, vous pensez Jobs, Musk, etc.
Ouais.
Vous pensez pas président de la Chambre de commerce, maire de Los Angeles, etc.
Ouais.
Donc nous, aujourd'hui, si on doit penser, il faut de l'exemplarité et des réussites majeures de gens du cru. Ce qu'on a relevé, c'est qu'on a une véritable absence de croissance endogène. C'est-à-dire qu'on est, on a une particularité, comme on a un territoire de tourisme, de rente, souvent les territoires qui fonctionnent sont celles où il y a des réussites entrepreneuriales qui transmettent et qui financent déjà en amont les jeunes pousses. Si on a un bémol à changer, c'est qu'on a une absence d'entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent permettre d'aller beaucoup plus vite sur le financement initial.
Puis il y a la question aussi d'attractivité. Je sais que vous avez reçu Sébastien Huron à la Chambre de commerce, qui est le patron de Virbac, le PDG de Virbac, et qui expliquait aussi la problématique de l'attractivité avec le foncier qui est cher, etc. C'est un peu compliqué d'attirer finalement les talents un peu dans la région. Mais par contre, quand ils arrivent, ils restent.
C'est toute l'ambiguïté, en fait. C'est d'arriver à faire comprendre qu'on a un territoire fertile qui peut permettre d'attirer, en fait, les compétences. Mm-hmm. Et derrière, comment les conserver. Alors, on les conserve pour d'autres notions, qui sont celles du temps, du bien-être, de la qualité de vie.
Oui.
Maintenant, il faudrait arriver à ce qu'on y mette un tissu qui permette de doper tout ça et de pouvoir en plus en faire une vraie, véritable force d'attraction.
Alors, c'est bien parce que ça me lance aussi sur la question suivante, c'est finalement la démarche RSE, parce que la responsabilité sociétale des entreprises, oui. On en parle beaucoup, c'est un gros sujet. La qualité de vie des employés et de l'entreprise fait partie du RSE. Quelle est la bonne pratique aussi au niveau RSE? Comment on met en place dans une entreprise aujourd'hui cette démarche?
Je peux vous en parler parce que, d'ailleurs, lui-même en parlait, la plupart des entreprises prennent du RSE par rapport, pour en faire un levier souvent, soit sur les appels d'offres, soit un levier de communication.
Oui.
Moi, je pense que le RSE, ça doit être incarné par le dirigeant et ce qu'il veut mettre en place. Nous, dans MyCoach, on s'est engagé avec l'association Peace and Sport Monaco qui fait son forum d'ailleurs aujourd'hui, où on a utilisé nos outils pour digitaliser un camp de réfugiés. On a été retenu parmi les 5 programmes de l'ONU.
Ouais.
Et on a digitalisé le camp de Zaatari, on a digitalisé toute la banlieue de Bogota. D'ailleurs, j'y suis allé.
Ouais.
Où en fait, vous avez des éducateurs qui, à travers nos applications, permettent de créer des exercices, des tutelles de bonne valeur,
ouais.
À travers l'association pour se dire comment aujourd'hui dans des zones de guerre, des zones désœuvrées, on se sert du sport pour améliorer le quotidien des gens. Donc on s'est engagé là-dessus et on a envoyé des employés à nous qui sont allés sur place. Et croyez-moi que quand vous allez dans un camp de réfugiés et que vous parlez à des personnes qui ont perdu toute leur famille, qui n'ont plus rien, qui sont dans des tentes, où au départ c'était prévu pour 10 000 personnes, ils sont 80 000 en plein cagnard. Vous vous rendez compte de ce que c'est le bien-être. Déjà, ça donne du sens à ce qu'on fait au quotidien,
ouais.
Clairement, dans l'entreprise. Et ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est qu'on se rend bien compte que notre quotidien à nous est bien meilleur et qu'on doit garder le moral et
ouais.
Se dire que par rapport à ce qui se passe à côté, on est quand même bien loti.
Pour les enfants malades aussi, je sais que vous êtes l'Enval, etc. Vous êtes très impliqué au niveau de tout ce qui est associatif. C'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein.
Y a beaucoup de monde qui s'implique dans l'associatif. Nous, on essaye de répondre présent à chaque fois avec ce qu'on peut.
Mmh.
Voilà, donc on parlait de Peace and Sport. Oui, pour les enfants de l'Enval, moi j'ai la chance d'être associé avec le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui en ce moment fait une Coupe du Monde et qui est parrain des enfants de l'Enval et qui là, on fait des tutos, on fait des petites capsules tous les 2-3 jours où il raconte son quotidien, il monte sa chambre et ça passe sur les. Alors on n'était pas censé communiquer là-dessus, mais on s'est dit c'est très sympa
oui.
Que les enfants, peut-être 5, 10, 15 minutes, aient l'impression d'avoir un moment privilégié avec en pleine Coupe du Monde et pourquoi pas rêver 5, 10 minutes et nous sortir et les sortir. De
c'est
leur
génial.
Quotidien.
Ça, c'est génial. C'est génial. C'est de leur apporter
même,
du sourire.
Même on s'éclate. Hein. Ouais. Moi, je m'éclate à le faire. Eux, ils s'éclatent à... Il y a une... Et vous pouvez pas imaginer... Alors, on voulait pas communiquer là-dessus, mais on voulait pas imaginer... On m'a même dit qu'ils avaient jamais vu Lloris aussi détendu. tu vois, la dernière vidéo qui passe aujourd'hui, c'est moi qui l'ai faite avec lui. Alors, il montre sa chambre. Il dit, bon, excusez-moi, les enfants, elle est en bordel. Donc là, vous avez ça. Là, regardez, je fais ça. Je mange ça. Donc, une chambre d'hôtel classique, en fait. Ça donne l'impression d'exister pendant quelques minutes. Ils regardent leur match. Il a prévu un signe, en fait, pendant le match pour leur faire coucou.
C'est génial.
Voilà, je crois que... C'est un minimum, en fait, dans l'entraide, ce que vous faites, vous, au quotidien. Et j'ai eu la chance de visiter le consistoire. Et bravo pour ce que vous faites, en tout cas.
Merci. Merci beaucoup. Un autre sujet dont on parle beaucoup aussi, c'est l'IA.
Hein, oui.
Là, on passe pour autre chose. Est-ce que c'est une vraie réalité ou c'est quelque chose d'un peu utopiste? Parce que l'IA, ça, on a l'impression de voir des robots qui vont nous... j'ai l'impression de voir un peu Terminator où on va être détruit par les robots qui sont devenus beaucoup plus intelligents que nous. Est-ce que ça va être une réalité ou c'est juste,
non, mais
c'est juste un
réalité,
modèle
en fait,
numérique de plus?
Moi, je suis toujours prudent par rapport à l'IA.
Ouais.
Parce qu'on l'emploie à toutes les sauces. Mmh. Ce qui fait que personne ne comprend l'enjeu. En fait, l'IA... véritablement, hein. C'est-à-dire que si on doit vulgariser ce qui se passe, on y est déjà en plein. C'est-à-dire que les Américains sont capables aujourd'hui, à travers une appli, de savoir si vous allez être malade bientôt, votre durée de vie, etc. Maintenant, c'est quelle est la place de l'IA qu'on va y mettre, et surtout se rendre compte que sur certains pans d'activité, on a énormément de retard. Alors, comment combler le retard? Ça, c'est une autre discussion.
Ouais.
Donc, l'IA, c'est un terme générique qui démontre ce que demain sera fait, où en fait, on va avoir une manière intelligente de vous aider dans votre quotidien.
Oui, c'est ça. Ça n'est ni plus ni moins qu'un nouveau modèle, finalement.
Oui, mais on l'a déjà. C'est-à-dire que plus personne, quand il va sur ses réseaux sociaux, sur son moteur de recherche, ben, les mots-clés qu'il y a sont totalement automatisés par rapport à ce qu'il a fait avant. L'intelligence vocale. Vous prenez un exemple, vous parlez, il y a le téléphone à côté, ben, le moteur de recherche va vous donner. C'est ça l'IA, on y est déjà en
oui,
plein.
Oui, c'est ça, en fait. Ça a déjà commencé. On va parler aussi un peu de jeunesse, hein, pour rebondir par rapport à tout ce que vous disiez tout à l'heure, apporter un peu d'espoir donc pour des jeunes désœuvrés, etc. Mais nos jeunes aussi, nos jeunes d'aujourd'hui qui arrivent, qui sont en études et qui vont arriver sur le marché du travail. Aujourd'hui, quels sont les métiers du numérique d'aujourd'hui et quels vont être les métiers du numérique de demain et quels sont les parcours pour y accéder? Parce que je sais qu'on en discutait notamment avec le président Renaudy, qui nous dit qu'on avait un très très gros manque de développeurs, de tout ce qui est dans le monde du numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas assez de promotion autour du numérique, alors que c'est un enjeu majeur.
En fait, si vous voulez, souvent ce qu'on dit, c'est que dans notre culture, on met du temps à financer les choses et on veut des résultats rapides. Dans la culture plutôt anglo-saxonne, c'est qu'on finance très vite et on se laisse le temps d'avoir les résultats. Il faut voir que tout ce qui inonde en fait notre smartphone, notre quotidien, Netflix, Amazon, Google, etc., a déjà 20-25 ans. C'est des boîtes qui ont 20-25 ans. C'est pas des startups qui sont créées la veille. Donc on leur a laissé le temps de mettre en place leur et c'est idem sur les développeurs. Les développeurs aujourd'hui, c'est un échec des années 2000. C'est-à-dire qu'on aurait dû anticiper. D'ailleurs, je crois que c'est le président chinois qui avait dit un jour, je comprends pas les Français. Ils avaient la meilleure école en 1881 avec Jules Ferry. Un siècle et demi plus tard, ils ont la même école, en fait. C'est-à-dire qu'on a le même parcours scolaire. Alors, je suis pas ministre de l'Éducation, je le serai jamais. Mais vous rendez compte que j'ai eu la chance avec le MEDEF national d'aller faire un voyage, et on a rencontré le ministre de l'économie coréen. On a fait 5 jours en Corée du Sud, et là vous tombez de votre chaise. C'est que dès l'école, on apprend à coder, on a adapté totalement à l'environnement dans lequel on vit, en fait, la formation scolaire. Donc les métiers de demain, ça sera peut-être même plus développeur d'appli. Il faut les anticiper aujourd'hui, et à la Chambre de commerce, c'est ce qu'on essaie de faire en disant quels seront les métiers de demain de 2030. Donc, on a parlé de l'IA, on a parlé de la transition écologique, il faudra être bon, notamment pour mettre des panneaux solaires, il faudra être bon peut-être aujourd'hui sur la livraison à domicile. En fait, c'est des métiers il va falloir qu'on adapte toute notre formation aux métiers de demain, pas ceux d'aujourd'hui.
Vous parliez d'énergie. Là, il y a une vraie crise énergétique qui s'annonce. Le secteur du numérique est très énergivore.
Vous le voyez sur le. Et là aussi, ça n'a pas fait la une des journaux, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui est un drame sur la place financière. C'est la faillite de FTX qui était la deuxième plateforme de crypto-monnaie.
Oui.
En fait, la crise énergétique va mettre à mal, en fait, tout ce qui concerne le numérique, qui est, je crois que c'est 25% de la bande passante de l'énergie ou de la fibre, c'est juste sur des emails. Donc en fait, c'est les métaverses, par exemple, le projet de métaverse, Facebook a perdu plusieurs milliards de cotations en bourse parce que le projet du métaverse, qui demande énormément d'énergie et de bande passante, va prendre du retard par rapport à ce qu'on vit et par rapport à la crise énergétique à venir. Donc en fait, c'est tout ce qu'on nous a mis devant, le métaverse, le monde virtuel, la crypto, etc.
Ça va bloquer, ça va freiner.
Ça va être freiné et il va y avoir un retour, comme après toute crise qu'on est en train de vivre, au marché traditionnel.
Ouais. D'ailleurs, là, il y a eu des annonces, hein, sur, a priori, sur le bouclier tarifaire. Hein, on en parle aussi parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent. A priori, il va y avoir des solutions que l'État va mettre en place pour effectivement un peu faire barrage à ces prix qui vont exploser. Et il y a des entreprises qui vont être soutenues. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous rapprocher des chambres de commerce, hein, qui pourront vous renseigner sur ce bouclier tarifaire. C'est important de le dire. La question suivante, c'est la cybersécurité. La cybersécurité, je trouve que c'est un vrai enjeu parce que on entend de plus en plus autour de nous. Hein, je parle même d'amis, etc. J'ai été piraté, mon compte a été piraté, mes emails ont été, j'ai reçu des emails frauduleux, je me suis fait piquer mes codes de carte bleue sur Internet, etc. Quel est l'enjeu de la cybersécurité au niveau du numérique? Je pense que c'est quelque chose de... Et je pense qu'on est très en retard aussi, encore là-dessus.
On est en retard parce qu'il n'y a pas eu la formation en amont et on est totalement dépendant, en fait. C'est-à-dire que on parlait de souveraineté des clouds. La bagarre autour des clouds, c'est aussi la sauvegarde de ces données. La prochaine, on le voit, les prochaines attaques, les prochaines guerres seront sur la donnée. C'est-à-dire en quelques clics, si vous ne maîtrisez pas, en fait... Et vous n'êtes pas dépendant, ben on va, comme on l'a vu, on va être privé d'électricité ou on peut être privé d'électricité. Là, on va être privé en fait de son flux internet. Et alors là, vous rendez compte que comment on vit sans tout ça. Donc
oui,
c'est comme pour
intégré,
le Covid, Il faut réussir à l'anticiper. Donc ça passe par la formation, ça passe par la pédagogie, ça passe aussi par une prise de conscience collective. Mm-hmm. Et essayer de sortir cette indépendance dont on a les pieds, les quatre membres englués dedans. Donc il n'y a pas de bonne école ou de mauvaise école. Il y a simplement faire attention, notamment sur tout votre quotidien. C'est ce qu'on fait.
La vigilance.
Nous, on est obligatoirement obligé d'être vigilant par rapport à nos clients quand vous avez le PSG, etc. Mais on a par exemple plusieurs codes Wi-Fi. On a l'ordinateur central qui est connecté à rien. Où il y a juste où on peut pas se connecter, c'est totalement crypté. Mais c'est des investissements qui paraissaient pas indispensables il y a quelques années, mais qui le sont aujourd'hui.
Oui, donc on recommande fortement aux entreprises effectivement
si c'est totalement votre ADN, c'est-à-dire oui. Si comme le nôtre, demain on perd les données ou il y a une fuite des données. Du suivi d'une équipe professionnelle, ça va être très très compliqué.
Alors justement, la question, ça ramène à la question suivante, la data. Parce qu'on entend beaucoup de data, database, etc. La data, c'est quoi et ça sert à quoi la data? Et pourquoi c'est un enjeu stratégique pour une entreprise?
La data, ça va permettre plusieurs... déjà, la data, comparer ça en fait avec un terrain où il y a du pétrole. Donc, c'est pas parce que vous avez du pétrole que vous avez à l'extraire et à le vendre.
Oui.
Donc, je vais essayer de faire de la pédagogie.
Oui.
Donc, déjà, c'est trouver le terrain où il y a et comment qualifier cette data. Mm-hmm. La première étape, demain je suis commerçant, la première étape de la data, c'est peut-être connaître ses clients, c'est demander le numéro de téléphone, c'est tout ce que vous voyez quand vous allez au Galeries Lafayette, etc. On vous demande, on essaye au maximum de savoir d'où vous venez. Parce qu'en fonction de ça, on connaît sa clientèle, on connaît son panier moyen, etc. On peut travailler sur toute l'approche marketing dans la foulée. Donc, vous rendez bien compte que le premier pas, c'est de connaître, en fait, de savoir comment extraire cette data et surtout quoi en faire. Le deuxième, c'est la valoriser pour vous et pour d'autres. Donc, c'est effectivement, on dit souvent que c'est l'or noir. Mais avec les nouvelles règles RGPD, ça va être de plus en plus compliqué de l'utiliser. Maintenant, que vous soyez un commerce de proximité, il n'y a pas d'avenir sans une prise de conscience de la data. Mais c'est souvent un mot qu'on utilise vulgairement, mais plutôt de la connaissance de vos clients et de votre base CRM. Ce qu'on dit base CRM, c'est la capacité à revenir et travailler là-dessus.
Oui, il y a aussi
vulgairement, j'envoie SMS. J'ai un restaurant, j'envoie mes SMS à mes 1000 clients en leur disant que j'ai une soirée. Ben, celui qui le fait a plus de chances de remplir sa salle que celui qui le fait pas. C'est les premiers pas de la data.
C'est ça.
Donc avant de se dire comment je valorise en fait ma base de données clients, c'est comment je travaille mes mails. C'est des choses simples en fait. Moi, ce que je conseille souvent, partons sur des choses hyper simples. je trie mes mails, je me fais une base de données simple, etc. Et c'est les premiers pas qui vont changer en fait votre approche de l'entreprise, et c'est ce qu'on appelle les premiers pas dans la data.
Cédric Messina, nous arrivons à peu près vers la fin de l'émission. Je vois notre directeur d'antenne aussi qui me dit qu'on arrive sur la fin. Donc, je vais avoir deux petites questions pour la fin. Alors, la dernière question, c'est vous, Cédric Messina, en tant qu'entrepreneur, en tant que aujourd'hui responsable aussi de chambre, etc. Quelle est votre vision à, on va dire, moyen long terme, hein, de la situation économique, et un petit peu qu'est-ce que ça va donner, vers quoi on va, et surtout ma dernière question, qui à mon sens est la plus essentielle de toutes, c'est votre pronostic pour l'équipe de France pour cette Coupe du Monde.
Bah, j'ai dit, y a deux questions. On a combien de temps? Parce que là, y en a, une où je peux faire plus court et d'autres. Non, la vision économique, je crois que moi je suis profondément optimiste en permanence. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes optimiste que vous n'êtes pas réaliste sur la situation. Mmh. Je crois que pendant ce qu'on appelle les post-30 glorieuses, etc., on nous a fait croire que tout le monde pouvait investir, tout le monde pouvait aller à l'île Maurice en gagnant le SMIG. Bon, donc on va revenir à des valeurs essentielles, qui est celle de la création de valeur. Mmh. Je crois que ce que je vois dans tous les métiers, c'est que d'ailleurs il y a une dichotomie entre le salaire de celui qui amène de la valeur, donc soit par la technique, soit par le réseau, et celui qui l'amène pas. Donc c'est des changements qui vont être hyper importants. Il va y avoir de la casse sociale sans doute, mais je crois que c'est un marché qui va devoir se réguler. On a parlé beaucoup d'économie fantôme et de tout ça. Ce que je vois, c'est que jamais depuis les années 29, on va vivre. Il y a une guerre qui est à quelques centaines de kilomètres finalement, milliers, mais on a un problème de transition écologique, on a un problème de changement notoire et d'inflation galopante, on a un problème de social, clairement. Bon, c'est-à-dire qu'on c'est un cumul des mandats, des problèmes là. Donc,
soit la santé également.
La santé, le Covid. Donc, l'économie va forcément. Et on est un des pays où il y a l'aide la plus importante. Mmh. On arrive à contrôler l'inflation, mais il faut se dire que je vois pas comment on passera à côté de la tempête. Donc, soit. Ben ça va être un drame collectif, ou soit on se dit bon ben on retrousse les manches,
la résilience,
on travaille tous ensemble et on met un collectif fort et on accepte surtout les changements qui doivent arriver. C'est qu'il y a des pans d'activité qui doivent disparaître, il y en a d'autres qui vont se réinventer. C'est la résilience effectivement de l'être humain, et j'espère que la France et surtout l'économie locale va réussir à se repositionner et qu'on soit tous en fort ensemble sur pour répondre à ces mutations, en fait, qui ont toujours existé, hein. C'est pas,
oui, c'est de tout temps on a changé de modèle, on est au changement de modèle.
Je crois que la stat, c'est que vous avez 8000 agences immobilières, en fait, que le marché peut en supporter normalement 600. Donc ça veut dire que, ça s'appelle de la régulation. Demain vous avez une rue avec 17 boulangeries, peut-être que vous dites que ce qui est normal qu'il y en a plusieurs qui ferment. Donc c'est tout ça qui vont dans les années qui viennent, il y a un changement notoire avec des habitudes qui changent, de consommation, etc. Bon, il faut l'anticiper avec le sourire, l'ambition, la conviction. Et pour l'équipe de France, ça c'est plutôt mon. Non, je crois qu'on est arrivé dans une Coupe du Monde qui va démarrer vraisemblablement plutôt. Là, on se dit bon, on est qualifié. J'ai l'impression que la Coupe du Monde démarre maintenant.
Ouais.
Les gens prennent conscience. On a eu un avant Coupe du Monde. Où il n'y en a pas eu, puisqu'on est passé d'une minute à l'autre, en fait, les matchs ont démarré. Il n'y a pas eu de préparation comme il peut y avoir en été. Il y a eu d'énormes polémiques sur la Coupe du Monde au Qatar, à juste titre. Maintenant, moi qui ai partagé beaucoup de temps avec on a parlé de Loris et d'autres joueurs. Est-ce que c'est leur rôle? Moi, j'ai eu des. On se rend bien compte que dans ce cas-là, alors le Qatar finance Vinci, donc on demande à Vinci de plus répondre au marché public. Vous avez Jean Nouvel qui a créé le musée. Est-ce que le monde de la culture s'est mis tout d'un coup à mettre des brassards, etc. C'est encore une fois le football qui pâtit, en fait, où on demande souvent à des joueurs qui ne sont là que pour jouer au foot de prendre d'autres responsabilités. Alors je pense que quand on voit l'équipe iranienne, on a tous beaucoup de respect pour ce qu'ils ont pu faire. Mmh. Le foot est une véritable lucarne, médiatique. Mmh. Et clairement, ça fait réfléchir de tout ça. Maintenant, je crois que les polémiques étaient nécessaires, en fait. On avait besoin de parler de ça. Mais il faut pas oublier ça reste un jeu.
Ça reste du sport
avec un jeu,
avec un
réalité,
beau message,
avec des gamins la plupart qui jouent au football et qui et je crois que le dernier match a montré qu'on avait une équipe qui était hyper insouciante, déterminée, travailleuse, toutes les valeurs qu'on a envie de retrouver. Je crois que je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi, mais on commence à bien aimer cette équipe.
On l'aime bien
et en plus on commence à y croire. Vous voyez, on commence, c'est-à-dire que le mondial a commencé depuis 15 jours ou 3 semaines. Et voilà, je crois que souvent quand la France a eu des résultats, c'est qu'elle était dos au mur et cette équipe a été dos au mur.
Ouais.
Et donc je miserais bien une petite pièce dessus, surtout quand on voit les autres matchs, quand on voit les autres matchs où il n'y a pas eu d'équipe qui a survolé les débats.
Ben écoutez, Cédric Messina, merci beaucoup. Merci. On a passé une heure. On s'en est pas rendu compte. Ça a été d'une rapidité incroyable parce que c'était passionnant. Passionnant. Voilà. Vous avez beaucoup de sujets. On fera peut-être d'ailleurs une autre émission. Hein. Je pense qu'on va vous réinviter parce que il y a encore plein de choses à dire. Donc je rappelle ce très joli parfum au bleu. Yossi, il est pour toi celui-ci. Hein. Je sens que ça te plaît.
Il sent bon en plus. Hein. Attends, non, c'est une entreprise locale, 100% français.
Et ça, bravo. Donc voilà, vous militez. Je sais que vous militez pour le local, pour notre région. Ça,
on essaye.
Voilà, vous essayez, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous êtes vraiment ancré dans notre belle région. Donc merci beaucoup, merci pour vos réponses franches, honnêtes, et qui, je pense, vont plaire et vont donner des idées à de jeunes entrepreneurs.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Trouvez ce moment en podcast replay sur rcnradio.info et sur vos smartphones.